Bienvenue au podcast Génération YZ. Je suis votre animatrice Élodie Laflamme, une entrepreneure web passionnée de développement personnel et de spiritualité. Génération YZ a été créée en 2020 pour mettre l'humain en lumière. Ici, je te présente des personnes inspirantes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui nous partagent leur histoire. Dans cette quatrième saison, nous aurons des conversations vulnérables qui nous apporteront du courage pour avancer et tu en apprendras plus sur mon quotidien, mes défis personnels et mes apprentissages. J'ai comme mission d'aider le plus de femmes possible à créer leur empire de rêve, les accompagner à prendre soin d'elles et les guider vers leur plein potentiel. N'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Let's be all in! Hello tout le monde! Bienvenue sur le podcast Génération YZ dans la saison 4. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode en duo avec une invitée qui est aussi mon amie, une femme de Trois-Rivières, que j'ai eu la chance de rencontrer pendant la fameuse pandémie sur les médias sociaux. On a travaillé ensemble, ensuite on s'est vu en personne, puis aujourd'hui attendez-vous à une discussion extrêmement puissante, enrichissante. On va parler de mille et un sujets ensemble, mais si vous êtes entrepreneur, honnêtement, restez jusqu'à la fin. Donc, je vous présente Jessica Girard, consultante en management. Merci d'être avec nous, Jess, aujourd'hui.
Oui, merci. Je suis tellement contente. Je pense qu'on va avoir une très belle discussion aujourd'hui. Je suis vraiment excitée.
Tellement. Puis, à chaque fois qu'on parle, juste dire aux gens qu'on a parlé peut-être 30 minutes avant de cliquer sur « record », puis j'étais comme ouais. « Merde, j'aurais dû enregistrer, c'est tellement bon ce qu'on est en train de dire ». Puis, je vais te poser la classique question pour commencer, peut-être pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Ou qui te connaissais avant, quand tu étais plus dans le monde des finances, mais on sait que tu as fait un switch cette année dans ta business. Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres aussi comme service avec tes clientes?
J'ai fait un switch drastique, un 180, vraiment très rapide. Je suis partie des finances pour me rediriger. Je suis consultante en management et j'accompagne mes clientes qui sont entrepreneurs, solopreneurs, sur trois niveaux. Design de service, pricing et gestion. Point. Fait que c'est vraiment mes trois éléments dans lesquels je travaille. Puis, je fais pas mal de la consultation et non du coaching. Je ne coach pas. C'est vraiment de la consultation. Et sinon, je suis fan de café à 7$, même si j'ai changé de domaine. Ça reste ma phrase fétiche.
J'adore. Ben oui, j'ai vu que tu as gardé ça dans ta bio Insta. J'étais comme, ouais. C'est tellement parfait parce que c'est qui tu es, toi. C'est ce que tu prends aussi dans tes valeurs. Donc, c'est super que tu l'aies gardé. Puis, avant qu'on aille un peu plus loin, peut-être pour celles qui nous écoutent, qui sont pas certaines encore de comprendre la différence, coaching, consultation, rapidement, là, c'est quoi à tes yeux qui distingue les deux titres?
Il y a beaucoup d'éléments, okay, mais si j'ai juste un élément à parler, c'est que le coaching, on est vraiment plus dans le côté du être et la consultation, c'est plus le faire. Donc, quand on vient voir, par exemple, un coach, on s'attend à se faire poser 1 million de questions. on s'attend à avoir des réalisations, des aha moments. On vient pas chercher des informations techniques nécessairement. On est vraiment plus dans le être versus, je trouve, que consultante. Puis parfois, il y en a qui vont se promener d'un chapeau à l'autre. Tu sais, je pense que c'est toi qui es coach, mais tu es beaucoup axé sur la stratégie. Tu sais, c'est vraiment des choses à savoir. Mais tu sais, une coach à la base, moi, je trouve que c'est vraiment vers le être, vers l'humain, l'entrepreneur derrière la business. Versus la consultation, c'est pour des besoins. Dans le fond, je résous des problèmes. C'est ce que je fais. Ma journée longue, c'est de résoudre des problématiques en tout temps. Donc, c'est très technique, c'est très terrain, c'est je pose des questions, là, mais c'est beaucoup axé sur le transfert de connaissances plutôt que sur je pense que je dirais ça, c'est comme grosse différence.
J'adore. Puis le fait que quand tu es consultante, tu es plus dans le faire. Est-ce que parfois il y a des clients qui stick to you, tu sais, qui veulent vraiment être toujours avec toi parce que tu viens un peu régler leurs problèmes, entre guillemets? Comment tu fais pour créer une relation de « oui, on travaille ensemble, mais c'est pas nécessairement pour la vie » ?
Je pense que ça se crée beaucoup plus dans le coaching que dans la consultation. Parce que la consultation, je m'assure que le problème, il est réglé de A à Z, puis qu'il n'y a plus de problème. Tu sais, fait que quand que ma cliente, elle part du contenant, peu importe c'est quoi, elle part avec tous les outils, elle sait qu'est-ce qui est devant elle. Habituellement, sa problématique, soit qu'elle est plus là ou soit qu'elle est vraiment diminuée puis qu'elle est rendue là, tu sais, je peux pas rien changer, bon, à cause de X, Y, Z. Mais habituellement, mm-hmm. elle part vraiment avec un problème de régler. Fait que c'est pour ça que moi, je développe pas des... T'sais, avec mes clientes, moi, c'est important qu'elles repartent de leur côté puis qu'elles ne développent pas ce sentiment-là d'appartenance puis de rester avec moi pour un peu cette, oui, appartenance, mais plus codépendance.
Mm-hmm.
C'est pas ça que je veux qu'elles développent avec moi. Je veux vraiment qu'on règle quelque chose. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'elles vont revenir. T'sais, 2 mois plus tard, je vais avoir un petit texto qui me dit « Hey, j'ai telle problématique, est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble? » Fait que c'est vraiment, j'ai une problématique, je sais que Jessica peut, elle peut y répondre, parfait. Fait que ça va être vraiment par petits bouts comme ça versus le coaching. Je trouve qu'on est vraiment, on va avoir des contenants qui sont longs ouais. dans le temps, qui sont mm-hmm. très long terme. Puis je trouve que c'est beaucoup plus dans le coaching qu'on va vouloir, que les clientes vont développer des... un petit peu de dépendance envers leur coach. Ouais. Parce que vu qu'on est dans le être et que la coach est tout le temps en mode poser des questions, parfois elle va répondre, on va toujours vouloir aller chercher l'approbation finalement de l'autre mm-hmm. personne, aller chercher les réponses à l'extérieur de nous parce qu'on est dans le être versus dans le faire, quand on va chercher des questions techniques, on ne développe pas nécessairement une dépendance, je trouve, parce qu'on mm-hmm. on a besoin d'une, tu sais, d'une réponse technique en ce moment pour X problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de ça demain ou dans une semaine. T'sais.
Absolument. Non, j'adore ce que tu dis. Puis en ayant justement, moi, la perception plus du coach, de la coach,
ouais.
on en voit sur les médias sociaux facilement les gens justement qui tombent un peu dans le panneau puis qui deviennent dépendants, dépendantes de leur coach. Je sais pas si tu as une raison peut-être toi par rapport à ça, mais moi, ce que je pense, c'est que les gens investissent beaucoup dans le manque. Les gens investissent en espérant, en ayant leur doigt croisé, que cette coach-là vienne justement régler leurs problèmes, que grâce à elle, qui fait 50 000 par mois, qui en parle à chaque jour sur les médias sociaux, ben, elle va venir régler mon problème financier, puis la coach va me permettre de faire 50 000 aussi. Mmh. Je pense qu'il y a encore trop de personnes, malheureusement, qui investissent dans le manque, dans l'espoir que telle personne vienne changer leur situation. Puis ces gens-là, ben, ça le dit, ils vont chercher de l'aide à l'extérieur d'elles-mêmes versus ouais. que quand on a des problèmes, entre guillemets, ou tu sais, un sentiment de manque, ben c'est à l'intérieur de nous qu'on doit aller regarder. Puis tu sais, perso, en tant que coach, ça se sent, là. Tu sais, mon intuition me parle aussi quand quelqu'un, soit avant que la personne embarque dans du coaching ou après notre premier appel de coaching, que je sens que la personne est dans le manque, qu'elle l'expert donc, que je viens de changer sa vie, ben c'est à moi à venir communiquer puis mettre mes limites de... Voici mes attentes, voici ce que tu peux t'attendre aussi dans notre coaching ensemble, mais c'est pas moi qui va te faire 50 000 par mois, puis c'est pas moi qui va venir créer la stratégie qui va t'aider, là. C'est toi et toi seulement.
Exactement, puis c'est ça la différence. C'est mm-hmm. entre le coach puis le consultant, c'est vraiment ça la limite. Puis tu sais, quand tu parles de coaching, c'est du coaching bien fait, c'est ça. Mm-hmm. C'est ce que tu viens d'expliquer. Tu sais, parfois, le coaching va être fait d'une façon où la personne va vouloir que ses clientes restent et créent cette codépendance-là, mm-hmm. ce qui peut devenir malsain à long terme, certain.
Absolument. Puis on en parlait justement avant de rentrer en onde ensemble, mais parlons-en des fameux suivis, conversations dans les DM. Personnellement, tu sais, souvent, quand j'investis dans des programmes, dans des coachs, ben il y en a plusieurs qui vont venir faire des suivis avec moi en privé. Puis pour moi, c'est un gros non. Puis je veux qu'on en parle ensemble sur le podcast parce qu'on a une perception différente. Puis tu sais, juste pour mettre les gens en contexte, quand j'ai commencé ma business en 2020, j'avais appris la manière de faire des suivis dans les DM. Donc quelqu'un achète, quelqu'un montre de l'intérêt envers mon coaching, ben je fais un suivi, blablabla. Puis aujourd'hui, en 2023, je n'adhère plus personnellement à cette stratégie-là parce que les gens qui me font des suivis, ça me fait vomir. Puis mon mindset par rapport à ça, c'est si je suis intéressée, ben je vais embarquer. J'ai pas besoin que tu viennes me dire « Es-tu intéressée pour que j'embarque? » Mais toi, Jess, je sais que c'est différent. J'aimerais ça que tu nous expliques aussi ton mindset par rapport à ça.
OK. Avant, j'ai une question. Par rapport à ton infolettre, est-ce que tu aimes ça recevoir... Je sais que c'est un peu différent que les DM, là. C'est mm-hmm. moins... on accepte de recevoir une infolettre, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aimes ça recevoir des derniers rappels, le panier ferme ou des derniers rappels de courriels pour des formations? Est-ce que tu aimes ça recevoir ça ou encore ça, là? Ça,
oui. Non, c'est bizarre. Okay. Des courriels promotionnels de coachs que j'aime, par contre. De gens que je suis sur Instagram, que j'aime, que je veux investir avec elles ou que j'ai investi dans le passé. Ça, j'adore ça parce que l'information est claire et ça ne s'adresse pas à moi. Donc, je sais que la personne l'a envoyé à plein d'autres personnes. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui prend le temps de m'écrire en DM « Hey, oublie pas tes offres », ça, j'aime pas ça.
OK, c'est bon. On dit, je trouve ça drôle parce qu'on a tellement deux opinions opposées par rapport à ça. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de la chose parce que les deux, on ne voit pas une façon de faire, tu sais, avec les gens avec qui on travaille. Puis on prône pas une façon de faire. Puis c'est important aussi de s'écouter. Puis de savoir, un, comment qu'on réagit dans des situations comme ça. Qu'est-ce que nous, on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis souvent, on va le reproduire. Tu sais, toi, tu n'aimes pas ça. En recevoir des DM, puis tu le fais pas. T'sais.
Non, exact.
Tu fais pas de suivi avec le monde, versus moi, de mon côté, ça me prend énormément de temps avant d'acheter. L'achat, c'est très émotif, mais je mets beaucoup de rationnel là-dedans, ce qui fait en sorte que je prends mes décisions sur parfois des 6 mois avant d'investir. Même que ces derniers temps, là, j'ai investi dans des choses que ça fait un an là, que je vois passer. Fait que, tu sais, pour moi, les suivis d'en recevoir, on s'entend avec bienveillance, avec une éthique, avec intégrité. Moi, ça me fait plaisir d'en recevoir parce qu'à ce moment-là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Tu sais, ça me ramène un peu à, OK, ouais, il faudrait que je prenne une décision parce que sinon, je reste dans ce néant-là de est-ce que je le fais ou je le fais pas. Puis là, si j'ai comme pas quelqu'un pour me faire un suivi, on dirait que je reste dans cet état-là versus, tu sais, recevoir un suivi, je peux prendre une décision, même si c'est non, ça m'aide à prendre des décisions, d'avoir le suivi. Puis, tu sais, quand c'est fait dans une bonne façon, je trouve même ça le fun, tu sais, de recevoir un suivi personnalisé quand tu sais que la personne, elle est authentique puis elle est vraiment bienveillante, tu sais, par rapport à toi. Là, qu'elle veut vraiment, elle a des bonnes intentions, c'est ça que je veux dire. Fait que, ouais, moi, j'aime ça. Puis, j'en fais des suivis, mais juste quand je sais que la personne, elle aurait peut-être besoin d'un suivi. Je vais pas en faire tout le temps.
Quand elle a montré de l'intérêt aussi.
Oui, tu sais, quand elle a montré de l'intérêt, elle me paraît sincère. Puis, tu sais, parfois, life happens, hein, qu'on dit. Ça va m'arriver de faire un suivi par-là. Puis, parfois, la personne me dit juste, « Hey, il s'est passé telle chose. Oui, je regarde. Comment tu viens de me faire penser? » Bon, parfait. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, je trouve que ça aide les gens à se recentrer. Puis, si jamais, ils veulent pas, ils veulent pas rendre là. Mais je pense que c'est une bonne façon... de faire. Mais on est différentes.
Mais je pense aussi que de ta façon, ça fait énormément travailler notre personne. Tu sais, apprendre à se faire dire non, apprendre à se faire dire j'y pense, apprendre à se faire dire oui. Tu sais, c'est l'objectif, c'est vraiment de rester neutre aussi. Tu sais, c'est pas. Dans ma tête, ça peut être correct de faire des suivis, mais c'est pas d'avoir des attentes, d'espérer que la personne s'inscrive. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un t'a demandé le lien pour s'inscrire qu'elle va s'inscrire, cette personne-là. Tu sais, je pense que plus on vit dans les attentes, plus là, on se crée de la pression, puis on veut peut-être faire encore plus de suivi parce qu'on a reçu 10 noms, par exemple, mais tu sais, comme tu l'as dit, il faut faire des suivis avec bienveillance, puis tu sais, vraiment, juste si on sait que ça l'aiderait vraiment la personne, pas à tous tes abonnés, là, pas à n'importe qui. Là.
Non. Puis quand tu t'envoies un lien, tu sais, à ce moment-là, je fais pas de suivi, tu sais. Je vais vraiment faire des suivis quand que j'ai soit envoyé un devis, t'sais, quand il y a eu quelque chose quand même de plus sérieux là, que juste envoyer un lien. Quand j'ai envoyé un devis pour de la consultation personnalisée, par exemple, là, je vais faire un suivi. Quand quelqu'un me met sur attente pour X raisons, je vais m'assurer de lui demander est-ce que ça vous convient qu'on fait un suivi dans tant de temps, puis that's it. Mais pas c'est ça. Je vais vraiment privilégier quand il y a eu une action concrète versus quand il y a. C'est juste pour voir un peu, zioter, j'irai pas faire de suivi. Là, à un moment donné, notre énergie, on va la garder.
Exact. Ouais. Je fais juste penser à, il y a une fille sur Instagram, ça fait 3 fois, elle commence là, dans l'industrie, là, c'est pas une entrepreneur depuis des années, on va lui laisser une chance, mais ça fait 3 fois qu'elle m'envoie son lien pour que j'achète sur sa boutique en ligne. Sans me parler, il n'y a pas eu de discussion, on n'a pas de relation, il n'y a pas de connexion qui s'est créée. girl, c'est sûr, j'achèterai pas. Même principe, il y a une fille, juste avant notre appel du podcast, elle m'envoie son truc pour son membership. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai dit, ben non, je suis déjà dans deux memberships, merci. Mais tu sais, de mon côté, du côté des gens aussi qui reçoivent des suivis, on doit avoir une certaine confiance à pas acheter pour faire plaisir ou pour pas se sentir mal, ni ghoster la personne non plus, juste d'être capable de dire, non, merci, I'm good. Puis, ça finit là.
Point final.
Puis, je suis curieuse, pourquoi tu m'as posé la question sur les infolettes? Toi, j'imagine que les courriels promotionnels, t'aimes pas ça?
Ah non, j'adore ça. Moi, j'en ai besoin parce que justement, mais c'est ce que je pensais que t'allais me dire le contraire, comme t'aimes pas les suivis en DM. Je me disais, ah, peut-être que ça va t'énerver, mais non, moi, j'adore ça parce que je suis une acheteuse qui achète à la dernière minute.
Intéressant.
Donc, moi, j'en ai besoin. Je lance l'information à tous ceux qui nous écoutent. Faites-les vos rappels de vente, vos courriels promotionnels parce qu'il y a des gens comme moi qui achètent vraiment à la dernière minute. Puis peu importe le montant, ça n'a aucun rapport le montant.
Exactement.
Il y a des masterclass de moins de 50$ que j'ai pensé puis pendant des semaines puis qu'à la fin j'ai acheté à la dernière limite avant que les portes ferment. Mm-hmm. Comme il y a des programmes à 3000$ que j'ai acheté à la dernière limite aussi.
Ouais.
Fait que ça n'a pas rapport avec le prix, c'est mon fonctionnement. Fait qu'envoyez vos courriels, gars,
j'adore,
s'il vous plaît.
J'adore que tu abordes le point parce que, my God, il y a tellement de personnes pendant leur lancement qui se découragent parce que personne n'a acheté pendant, exemple, la pré-vente. Moi, mais le prix est moins cher. Je pensais que plus de personnes allaient acheter. Girl, ça veut rien dire. Le petit sentiment d'urgence sain aussi, toujours, peut vraiment augmenter tes ventes. Puis ça fait en sorte que tu sais, parce que si tu lâches avant la fin de la date de lancement que tu t'avais donnée, ta confiance va drop, la confiance de ton audience va baisser aussi. Donc, s'il vous plaît, faites vos lancements jusqu'à la dernière seconde. Puis justement, envoyez vos courriels de rappel, faites vos dernières stories, faites des suivis. C'est la manière aussi que vous voulez faire. You never know qui va peser sur acheter avant que les portes ferment, par exemple.
C'est comme aller faire, tu sais, le demi-marathon puis dire comme...
Right.
Alors moi, j'arrête, là, tu sais, j'arrête à... Je vois la ligne d'arrivée, là, puis écoute, ça marche pas, non, j'arrête. Il y a pas personne qui m'attend en ligne, tu sais. Non, non, tu y vas. Gagne!
J'adore! Puis, Jess, j'ai envie qu'on parle ensemble parce qu'on parle seulement un peu de marketing puis on en a parlé dans nos stories cette semaine. Les fameuses coachs, parce que la plupart, on va se le dire, c'est des fucking coachs, qui promouvoient leurs offres, leurs programmes en disant leur revenu, leur salaire, comment qu'elles font, exemple, 50 000, 100 000 par mois. Puis, ben, que plusieurs personnes, une fois dans leur programme, se rendent compte que c'est de la merde, puis qu'ils apprennent à rien. Qu'est-ce que t'en penses? Let's talk about it.
Je vois tout le sarcasme dans ta voix, tu sais, écoute, on va se lâcher lousse, OK?
Ouais.
On va se lâcher lousse. Puis, OK, moi, dans la vie, j'aime faire des images, j'aime m'imaginer des scénarios, OK? Fait que, puis j'en ai parlé hier en stories, des enseignants versus les charges de cours, OK? Puis je te dis, là, c'est exactement la même affaire. C'est un enseignant, un vrai enseignant, là, okay, qui fait ça de sa vie. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui a fait du terrain, qui a été consultant puis qui est devenu enseignant. Là. Je parle d'un enseignant, mettons, à l'université. Là. Il y en a là, qui sont hyper bons. Là. Côté théorique, là, ils vont t'enseigner ça. Là. C'est des super de bons enseignants. Ils sont bons pour enseigner. T'sais. Est-ce que tu es mis dans une organisation, est-ce qu'ils sont bons pour faire le travail terrain? La plupart du temps, non. La plupart du temps, non, ils ne sont pas formés pour ça. Ils ont beau avoir toutes les connaissances possibles, ils sont bons pour enseigner, point. Okay? C'est la même affaire avec des coachs. Il y a des coachs que, dans leur business, sont à chier. OK, on va se le dire.
Mais oui, tellement.
Dans leur propre business, là, mais par exemple, ils ont tellement, tu sais, ils font pas ça. Tu sais, ton enseignant, quand tu vas le voir, tu t'en fous de savoir le chiffre d'affaires qu'il fait.
Mm-hmm.
Est-ce que l'enseignant va plus t'enseigner, va avoir des enseignements qui sont plus... bénéfique pour ta vie s'il fait 100 000 versus s'il fait 30 000, ça n'a aucun rapport, son revenu, c'est pas relié, tu sais, puis je fais le transfert avec les coachs. Il y a des coachs qui sont nuls pour leur propre business, mais ils ont tellement de connaissances, il y a tellement de choses que tu peux apprendre, ils sont bons pour transmettre l'information, puis ils font peut-être 50 000. Et je rajoute un peu à ça, une autre variable, ça se peut que cette personne-là veut faire 50 000 et pas plus.
Mm-hmm.
Aussi.
Tellement.
Fait qu'il y a une autre variable à ça. Puis après ça, tu sais, je parle des chargés de cours. Il va y avoir des coachs qui vont être style chargés de cours ou souvent à l'université, moi, mes chargés de cours, c'était des gens qui avaient beaucoup de terrain. C'était des consultants, ils ont travaillé en entreprise. Le côté théorique, ils ne connaissent pas beaucoup. C'est vraiment l'apprentissage terrain qu'ils vont te transmettre. Eux autres sont nuls pour t'enseigner. Sont absolument nuls à enseigner, mais ils ont une business. Par exemple, je fais le parallèle avec un entrepreneur, ouais. Tu vas en avoir qui vont avoir des business, ça accouche. Leur business marche, ils l'ont l'affaire. Côté marketing, vente, sont hyper bons. C'est vraiment des bons entrepreneurs. Par contre, si toi, tu arrives et tu veux te faire coacher par eux, ils sont nuls pour transmettre. T'sais, fait que c'est la même affaire.
Exact.
Ça veut pas dire, il peut faire un chiffre d'affaires de 1 million, puis t'as l'impression, waouh, c'est un bon entrepreneur, il fait 1 million de chiffre d'affaires, ou il en fait 10, ou peu importe, on s'en fout du chiffre. Waouh, je vais apprendre de lui ou de elle, peut-être même pas, ça n'a aucun rapport à son chiffre d'affaires.
C'est comme le chiffre d'affaires détermine pas le talent de la personne, les connaissances qu'elle a à transmettre. Puis je suis tellement d'accord, puis je pense que tout ça, c'est vraiment une question de marketing. Parce qu'il y en a qui sont très forts. Le marketing, c'est tout ce qui englobe, c'est le brand, la vente, comment communiquer son message, comment s'adresser à la bonne personne, etc. Mais qu'une fois qu'on s'inscrit dans les programmes, puis by the way, tout le monde, Jess et moi, on en parle aujourd'hui parce qu'on en a vécu des expériences, pas qu'on regrette, mais qui nous ont marqué sur que le marketing était bon, mais rendu dans le programme, c'est de l'estime marde, on va se le dire. Puis, comme Jess a dit, il y en a, c'est contraire à niveau... Tu sais, peut-être que vous nous écoutez, puis que c'est votre cas, là, les stories, le brand, c'est pas encore trop vos forces, mais vous savez que vous êtes vraiment bonne à livrer le contenu, que vous pouvez faire une différence dans la vie de votre audience. Je pense que l'important, c'est l'équilibre entre les deux. Puis pourquoi qu'on en parle aujourd'hui, c'est vous, en tant que, exemple, cliente ou personne qui investit dans sa business, faites attention de pas vous faire prendre par ça. « Wow, elle fait 50 000 par mois, elle va probablement m'aider. » Ça veut absolument rien dire. Puis perso, avant d'investir, ce que je fais, moi, c'est que, surtout des gros investissements, là, je parle pas de petites masterclass, mais exemple du coaching en one-on-one avec une nouvelle coach, c'est sûr que je vais lui demander qu'elle me donne des noms de ses anciennes clientes ou clientes actuelles. Je vais aller leur écrire à ces clientes-là sur Instagram. Vraiment, je le fais pour savoir comment ils ont aimé leur expérience avec la coach. Je vais aussi aller voir si la personne a un petit highlight sur Instagram de témoignage pour voir qu'est-ce que les gens disent d'elle. Puis je vais lui demander aussi, surtout à cette personne-là, c'est qui ses coachs ou mentors actuels. Si elle n'en a pas, ou tu sais, c'est des coachs que bof, je trippe pas, ben je vais pas nécessairement y aller. Tu sais, c'est juste normal avant d'investir de poser des questions, je pense, à la personne. Trop souvent, il y en a qui sont comme « Ah, oh, wow, ça paraît beau, elle a de l'air bonne, je vais investir. » Mais pose des questions avant d'investir, c'est tellement normal. C'est comme quand on achète une nouvelle voiture. On en pose des questions, là, ça fait partie de la game.
Exact. On va demander c'est quoi les antécédents de la voiture. T'sais. On
ouais,
va demander
c'était
qui le propriétaire. Est-ce que c'est une femme l'ancien propriétaire ou c'était un homme? C'était quel âge? Puis ça va venir avoir un impact sur ton achat, tu sais, considérant est-ce que c'était des jeunes, mettons, qui ont peut-être fait n'importe quoi avec la voiture. Ou peut-être que c'était quelqu'un, tu sais, une personne âgée que tu fais « Ah, OK, elle a sûrement pas pris beaucoup la voiture, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. » Ça explique, tu sais, ça va influencer ton achat de ta voiture. Puis c'est la même chose. Puis je pense, tu le dis, ça a l'air, ça paraît. C'est vraiment dans le paraître. Ça paraît bien beau. Mais oui, pose des questions. Puis aussi les reviews en ligne versus aller parler aux clientes. Sérieux, regardez pas juste les reviews, OK, parce que il y en a qui vont envoyer des incitatifs.
C'est vrai.
Des cartes cadeaux, qui vont envoyer des incitatifs justement pour recevoir du témoignage ou qui vont quasiment le forcer dans la gorge de leur cliente de recevoir un témoignage. Allez parler directement à ces personnes-là. Si vous voyez des vidéos sur un site web de gens que vous voyez déjà les noms, allez leur écrire. Ça va leur faire plaisir de vous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, puis demandez-leur leur avis honnête. Puis vous allez le savoir directement au lieu de vous fier un petit peu au paraître sur les réseaux sociaux. Ah, le beaucoup de clientes, ah, les revues, ça a l'air beau. Ouais, mais encore, tu sais, en arrière de ce paraître-là, qu'est-ce qu'il y en est?
Tellement. Tu sais, si je peux parler d'une expérience que j'ai vécue, il y a une coach que j'adorais, que j'aime encore, mais que, tu sais, j'investis en elle depuis 3 ans, puis là, aujourd'hui, je me rends compte que c'est juste toujours les mêmes affaires qu'elle coach, qu'elle apprend aux gens. Fait que ça me démontre, de ma perception, of course, qu'elle investit peu en elle pour apprendre de nouvelles choses, pour ensuite transmettre de nouvelles connaissances à ses clientes, ou, tu sais, devenir encore plus experte dans tel domaine. Tu sais, c'est pas normal que j'aille la même coach 3 ans plus tard puis que j'apprenne les mêmes choses qu'avant non plus. Fait que, mais tu sais, sur les médias sociaux, elle a l'air de toujours investir en elle. Elle a l'air donc bien, puis le freedom, puis les voyages, puis let's go. Mais moi-même, je me suis fait prendre au piège de « Ah, ben sa vie a l'air de ça, fait que je vais investir en elle. » Mais le paraître nous trompe là, souvent.
Exact. Puis pour vrai, j'ai eu souvent des meilleures expériences avec des gens qui faisaient moins qu'avec des gens qui faisaient plus. T'sais, pour vrai, là, j'ai eu des vraiment bonnes expériences avec des gens qui je le sais, faisaient moins d'argent, mettons. T'sais, à quel point ça veut tellement rien dire. Là.
Mais non, puis tu sais, ce que j'ai hâte de voir le jour que je vais faire 50 000 par mois, c'est, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le sens... Tu sais, une personne qui commence, tu sais, on en fait partie, Jess, on est encore des bébés entrepreneurs, tu sais, on donne vraiment cœur et âme pour nos clientes, on s'assure, tu sais, que ça satisfait leurs attentes, on communique, blablabla, tu sais, on est présente. Puis, elle, je veux pas généraliser, là, mais plusieurs qui font beaucoup par mois, on en entend tellement, là, des mauvais commentaires, on les voit jamais, on pensait avoir... du coaching one-on-one, mais finalement, elle n'est jamais là aux appels, c'est son assistante qui est là, whatever quoi. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Dans le sens, je peux pas croire que ça l'arrive, ce genre d'affaire-là, puis que, tu sais, parce que tu fais tant de montants d'argent, tu cares moins pour tes clientes. Tu sais, même principe que je peux pas croire qu'il y a des gens maintenant qui se font avoir encore là-dessus de « Ah, je vais engager tel coach parce qu'il a fait 50 000 par mois. » On s'en balance de combien qu'il a fait. Là, ce qui est important, c'est comment la coach prend soin d'elle, son bien-être. Es-tu passionnée ou es-tu écœurée de faire ce qu'elle fait aussi? Là?
Est-ce qu'elle est 24 sur 24 sur son sel aussi?
Aussi? T'es... Tellement!
Il y a quelqu'un que moi, je regarde ses réseaux sociaux qui m'inspire par son leadership, par sa volonté, par son work ethic, t'sais. Mais sa vie, malgré ses revenus, qui fait plus de 10 000 par mois, je voudrais jamais sa vie. Je changerais rien en rien ma business pour qu'elle ressemble à ça. Parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone. Puis ça lui convient. C'est correct aussi. Mais tu sais, c'est ça aussi quand on investit avec quelqu'un, c'est savoir qu'est-ce que moi je retire, qu'est-ce que je veux retirer de cette relation-là, de ce coaching-là. Puis parfois, tu sais, on le disait avant d'enregistrer, parfois c'est mieux de même pas investir puis d'analyser les stratégies de la personne qu'on désire, avec l'entreprise qui est là, qu'on désire comme avoir une entreprise qui se ressemble au niveau du modèle d'affaires. Mais tu sais, ça vaut plus la peine parfois de les regarder de l'extérieur puis d'analyser leur stratégie et d'apprendre de cette façon-là que de rentrer dans un container avec eux.
Tellement.
C'est fou, là, quand tu penses
ben
à
oui.
ça.
C'est pas normal dans un sens, tu sais, au contraire.
Non.
Tu sais, perso, moi, je veux que les gens qui me regardent dans mon contenu gratuit disent waouh, c'est tellement nice, imagine travailler avec elle. Puis une fois qu'ils travaillent avec moi, ils sont genre oh my god, c'est vrai, c'est encore plus nice. Ça, ouais. L'intention, c'est pas finalement, les gens se rendent compte que c'est de la merde, mes containers, fait que je fais juste plus rien offrir. Ce qui m'énerve aussi, tant qu'à parler un peu de nos industries, l'industrie un peu plus du coaching, c'est les personnes qui ne font qu'être présentes sur les médias sociaux, qui font seulement publier, faire des lives, faire des reels, faire des stories, quand elles sont en train de faire la promotion d'une de leurs offres, puis après, pendant 3 mois, disparaissent. Puis là, reviennent pour faire la promotion de leur prochain lancement. J'ai aucune idée de ton opinion là-dessus, j'aimerais qu'on en parle, mais perso, moi, ça me gosse tellement parce que je prône la constance. Puis oui, il y a des saisons dans notre entreprise. Oui, il y a des momentum aussi. Puis il y a des fois, ça se peut que tu publies plus qu'il y a d'autres moments. Ça, c'est juste normal. Là. C'est la vie. Puis ça se peut qu'il y a des mois que tu files moins bien, whatever. Mais de là à tout donner, disparaître, moi, ces gens-là, ça me dit que j'ai pas confiance en elles. Donc, je ne vais pas investir avec ce genre de stratégie-là.
Non, puis c'est un peu des mots qui sont tout de même gentils. Je trouve ça un petit peu, mais pas honteux nécessairement, mais faut que tu aies une méga confiance en ton audience là, pour dire comme « Hey, moi, je vous laisse. » Puis après ça, je reviens. Puis après ça, je vous laisse. c'est un peu de prendre ton audience pour des gens stupides, je trouve.
Mm-hmm.
Puis si, tu sais, comme tu dis, là, je fais attention à ce que je dis dans le sens où on a des saisons dans notre entreprise, mm-hmm. comme il y a des moments que oui, il peut, life happen aussi, hein, ça se peut que, ouais. ça va pas bien au niveau de la santé ou n'importe quoi, tu sais, life happen, là, mais des gens que c'est comme ça leur stratégie, là, ils partent, ah, ils ont fait leur argent, tout va bien, ils repartent, puis ah, j'en reviens avec un lancement, tu sais, mais de où? C'est quoi ça? Moi, sérieux, j'adore vraiment pas ça. Puis là, au niveau de la confiance, je me dis juste, est-ce que tu te sers des gens, tu sais, qui, mm-hmm. qui t'écoutent? T'es pas en train de connecter avec ton monde. T'es pas en train de donner de la valeur quand tu fais ça. J'ai de la misère. J'ai de la mm-hmm. misère aussi à formuler qu'est-ce que j'en pense, là, mais j'ai de la misère avec ces gens-là, je pense.
Ben, même chose. Puis tu sais, on dirait que c'est comme... On les suit, on les aime pendant, exemple, 6 mois. Après, ils disparaissent les 6 prochains mois. Fait que là, on déconnecte. On sait plus qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis moi, juste ça, pas savoir t'étais où pendant 6 mois. C'est pas que je suis dépendante de toi, mais comme, why? Tu sais, je me verrais jamais disparaître, revenir. Mais tu l'as dit, là, à mes yeux, ça briserait le lien de confiance avec mon audience. C'est comme, la connexion est plus là. Même principe qu'une amie qui disparaît dans ta vie 6 mois, qui revient, qui repart. Oui. Tu sais, c'est la même chose. Puis on le sait, les gens achètent la confiance. Fait que tu sais, si tu brises la confiance de peu importe la façon, ça se peut que tu ailles moins de ventes avec ça aussi. Puis là, je parle pas d'être parfaite puis de publier chaque jour. Tu sais, la constance, c'est pas le perfectionnisme, mais la constance, c'est au moins de toujours être un peu là sur le long terme.
Exact.
Puis est-ce que toi, t'en as vécu des expériences, tu sais, sans nommer de nom, désagréables? Peut-être toi, peut-être des clientes qui ont vécu des choses qui étaient comme, ouais, faites pas ça, s'il vous plaît.
Ouais, je pense au niveau des livrables, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui promettent, soit qui promettent des résultats, soit qui vont promettre une certaine forme dans leur offre de service. Par exemple, 2 rencontres avec telle personne. Bon, bref, tu sais, ils vont promettre des éléments que lorsque tu achètes, c'est pas ça du tout. Ça, à ne pas faire. Ça, tu peux pas le savoir avant. Tu sais, à moins que tu ailles parler avec des anciennes clientes, tu peux peut-être le savoir. Mais sérieux, les livrables gagnent. Tu sais, si vous dites que vous faites quelque chose, faites-le. Puis au pire, rallongez vos délais. Tu sais, dites, je t'envoie tel courriel ou tel document, je t'envoie ça. Comme, rajoute, hein, dans un 72 heures ou un kit. Rajoute du temps juste pour être sûr que tu vas le livrer à temps. Je trouve que dans les livrables, c'est vraiment un élément, moi, qui m'énerve parce que les gens le font pas ou promettent des choses qu'ils sont pas capables de tenir. Ça m'énerve parce que moi, je suis hyper, tu sais, pragmatique, tangible. Puis si tu me promets quelque chose, là, comme, je te crois, là.
Ah ouais, t'as tellement raison. Même principe que, tu sais, ça, c'est un détail, mais moi, c'est quelque chose qui me frustre. Maintenant, perso, quand j'offre des appels, souvent, je vais dire entre, exemple, 60 et 75 minutes. Ça m'est arrivé avec une coach que ses appels, elle dit que c'était 60 minutes, puis à chaque fois, vers 30 minutes, elle disait « OK, bye-bye, on se voit au prochain appel. » Mais yo, j'ai payé pour 60 minutes, pas 30 minutes. Tu sais, autant que ça peut être c'est banal, parce que c'est vrai qu'en 30 minutes, on peut voir vraiment gros de choses, mais si tu me promets 60 minutes, je veux que ça soit 60 minutes. Fait que tu sais, c'est soit que, comme tu l'as dit, d'être un peu plus flexible, d'ajouter du temps, tu sais, d'être comme, de donner un délai à vos clientes, ou si tu dis, exemple, 60 minutes ou 2 appels, ben, faut que ça soit 60 minutes puis 2 appels. Faut respecter ça. Je suis tellement d'accord.
Ouais. Tu vois, moi, ça, mes rencontres, je me rendais compte qu'avec certaines clientes, j'avais besoin de consultation. J'avais besoin des fois d'un 45 minutes. Pour d'autres, j'avais besoin d'un 60 minutes. Puis même pour d'autres, j'avais des fois, là, je dépassais le 1 heure, tu sais, 1h20, 1h15. Fait que maintenant, ce que je dis, pour combler toutes les attentes, c'est un minimum de 45 minutes qu'on a ensemble. Ça se peut qu'on dépasse, dépendamment de la rencontre. Mais c'est certain qu'on a un 45 minutes ensemble. Si on dépasse, c'est mon temps. C'est moi, après ça, qui deal avec la suite des choses. Puis, tu sais, je le fais comprendre au monde, tu sais, pour pas que ça s'éternise non plus, que c'est 45 minutes. Puis, tu sais, après, quand je vois que 45 minutes, il est fait, je leur demande, tu sais, OK, j'ai un autre 15 minutes que j'aimerais, comme, discuter de choses avec toi. Est-ce que tu me permets qu'on prenne ce 15 minutes-là, tu sais? Mais j'y vais avec un minimum de 45 minutes. Comme ça, je sais que je suis capable d'y répondre. J'adore. Parce que c'est jamais en bas de 45 minutes, tu sais. Fait que c'est tout le temps de pouvoir gérer les attentes de tes clientes puis de livrer ce que tu dis que tu vas faire.
Gang, exactement. Please, amen! Puis j'adore ce que tu dis, Jess, puis je vois le temps filer, mais j'aimerais vraiment qu'on aborde le sujet. Là, tu te demandes que je m'en vais dire. Mais parce que, comme j'ai dit, on se connaît depuis 3 ans. Je pense qu'il y a 1 an et demi, tu avais pris un nouvel emploi, temps plein. Puis là, tout récemment, tu as dit « bye bye boss » à ton emploi full-time pour devenir vraiment à ton compte. Je veux pas qu'on rentre dans le négatif, mais tu sais, si on dit les vraies affaires, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile ou qu'est-ce que tu trouves encore le plus difficile par rapport à ça? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est comme « ah, oh, wow, t'es entrepreneur, ça doit tellement être le fun, mais girl, comme, il y a des jours moins le fun. »
Tu vois, moi, j'ai vécu le pire en emploi. Je pense que j'étais genre rendue dans un niveau tellement bas. Puis, tu sais, j'ai aucune gêne à le dire, je m'en allais vers un burn-out. Si je ne démissionnais pas, mon rendez-vous avec mon médecin était pris à ce moment-là. Puis, je le sais que c'était un burn-out. Et j'ai juste décidé comme de quitter l'emploi. Fait que, tu vois, moi, je passais vraiment par... J'ai ce rêve-là d'être entrepreneur depuis comme since day one. Tu sais, ça a toujours été un choix. Tu sais, des fois, on devient entrepreneur, pas par choix parce que c'est tombé du ciel comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Puis, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Je sais que c'est difficile d'être entrepreneur, mais il n'y a rien qui pourrait être pire que ce que j'ai vécu entre quatre murs dans un bureau où j'étais vraiment pas bien et où la seule chose où je me disais à chaque... Ben, en fait, pas juste à chaque matin, de 8h à 4h, je me disais, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? C'est quoi ma vie? Mais qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. Puis quand j'avais dit ça à mon chum, il m'a dit, hey Jess, tu peux pas leur dire ça, tu sais? Parce que je demandais, je disais, hey, j'aimerais ça prendre une rencontre. Qu'est-ce que t'en penses si je leur dis que je perds mon temps? T'es comme, hey, tu peux pas dire ça, tu sais? Eux, c'est comme, c'est Jess, come on, tu sais. J'ai comme, ouais, mais c'est ça, je file pour vrai, je perds mon temps, je suis pas utile. Fait qu'on dirait, j'ai tellement vécu le pire, j'ai tellement été bas dans mon self-esteem, tu sais, dans ma confiance que, on dirait, là, comme entrepreneur, il y a rien qui peut battre ce sentiment-là. Puis, même si j'étais stressée, ça reviendrait même pas au stress que je vivais, tu sais, à ce moment-là. Mais oui, tu sais, oui, c'est stressant, mais quand tu fais le choix, je pense que les deux, ça a été ça, tu sais, avant que j'aille cet emploi-là, j'étais travailleur autonome. Fait que je l'ai vécu. Tu sais, si je reviens, mettons, avant ça, c'est le stress. Tu sais, moi, je trouve entrepreneur, c'est stressant. Puis, je fais pas d'anxiété à la base. Je suis vraiment chanceuse. Je suis pas prône, tu sais, à l'anxiété. Ça va vraiment bien, tu sais, au niveau du stress. Je suis capable de stabiliser mon stress. Puis pourtant, là, je parlais de ma job dans mon sommeil quand j'étais, avant, quand j'étais en finance. Ouais, puis c'est le même que j'ai su que, parce que mon chum, il me disait, tu parles de la job quand tu dors. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, là, on a un problème. C'est pas normal. Fait que, tu sais, je dirais, ce qui est le plus difficile comme entrepreneur, c'est de gérer ce stress-là parce que tu as des clients, tu as des collaborateurs, des collaboratrices, tu as aussi des collègues, tu sais, entrepreneurs, tu as des gens qui comptent sur toi. Tu dois livrer le service, que tu sois heureuse, que tu sois, qu'il y ait une bad luck qui arrive dans ta vie. Tes clientes, ils s'en foutent. Tes collaboratrices s'en foutent aussi. Ouais. Tu sais, on va dire les vraies affaires, c'est ça pour vrai. Le monde s'en fout là, tu sais, de qu'est-ce qui se passe toi dans ta vie, puis ils veulent juste avoir le résultat, pourquoi ils ont payé. Fait que ça peut amener à une espèce de stress. Moi, je pense que c'est cette pression-là de devoir comme faire plaisir un peu à tout le monde. Puis à un moment donné, tu dois te détacher puis te dire comme non, ma business, mais tu sais, my rules, mes règles, c'est moi qui choisis comment je lead ma business. Puis à un moment donné, tu apprends à te leader toi-même, puis tu diminues ton stress. Mais toi, je sais pas ça serait quoi le plus difficile, mais moi, ça a été vraiment, tu sais, descendre ce stress-là puis faire comme, OK, je suis capable de me leader. Puis là, t'es pas dans une entreprise où t'as des gestionnaires qui peuvent t'aider à évoluer. Non, t'es tout seul dans la jungle, puis tu dois naviguer là, avec toutes sortes d'affaires.
Tellement. Non, mais j'adore que t'en parles, puis... Moi, c'est un peu différent, puis tu sais, ça me fait juste penser, cette semaine, j'avais l'appel de bienvenue de mon programme podcast qui était lundi. Lundi, je me réveille, plus de voix, malade, la grippe, le rhume, puis là, c'est toujours la fameuse question, qu'est-ce que je fais? Parce que t'es dans, tu sais, j'étais dans la dualité de les gens ont payé pour aussi mon énergie, ma drive, tu sais, je sais que comme l'énergie est quand même bonne. Puis, je suis zéro là, puis tu sais, je pense juste à le reporter. Fait que je me suis posé la question, moi, ce que je fais dans ce temps-là, vraiment, je médite, je me connecte à moi, qu'est-ce qui est le mieux. Puis, je veux pas rentrer justement dans cette pression-là de, tu sais, pression de performance. C'est un peu comme ça, je l'appellerais, de faut que je performe no matter what, un peu le hustle mode. Fait que je l'ai reporté, j'ai écrit un message, j'ai ajouté un appel de plus aussi Q&A pour ça. J'étais pas obligée, tu sais, je dis pas à tout le monde d'ajouter parce qu'on se sent coupable. Mais je l'ai reporté de 3-4 jours pour avoir au moins une voix, là. Puis c'est fou comment je me suis rendu compte que notre voix, tu sais, nous deux, là, on fait des podcasts, des lives, des coachings, ma voix, c'est mon meilleur outil de travail, qu'on doit en prendre soin. Puis là, c'est pas comme je m'étais foulée une cheville, j'avais juste plus de voix, là, tu sais, j'en parlais comme une mamie. Fait que je l'ai reporté, puis pour vrai, tous les messages, parfait, hello, prends soin de toi, nanana, on comprend, j'étais comme, ouf, une chance, je me suis écoutée, parce que si je m'avais juste... t'sais, mis cette pression-là, le monde l'aurait ressenti. Là. Tu le sais quand je file pas, puis quand quelqu'un file pas, on le ressent aussi. Mais moi, mon stress, c'est vraiment financier. À chaque fois de me dire, on sait jamais. We never know. Puis ça, c'est la grosse différence entre employé et entrepreneur. You never know. Puis ça, je me demande, tu sais, je le travaille vraiment actuellement de, tu sais, le lâcher prise, de it's coming, tu sais, d'y croire, mais c'est ça, je trouve dur. Puis même avec mes clientes, c'est ça, je trouve dur à expliquer quand ils me disent, oh my god, hello, j'ai peur de pas être capable, whatever, le prochain mois d'atteindre mon objectif. Le lâcher prise, mais c'est dur à expliquer, à faire, à intégrer. Mais c'est fou de jamais savoir quand les gens vont venir vers toi. Oh my god, mais tu sais, je dors sur mes deux oreilles, mais ça, c'est mon. Si je vais à répondre à la question, c'est mon stress d'entrepreneur, vraiment.
C'est stressant parce que l'argent, c'est pas juste de l'argent, tu sais, c'est lié à tes besoins de base, là. Tu sais, te nourrir, exact. Avoir un toit, tu sais, payer tes factures, c'est comme la base, tu sais, si tu veux comme être bien, là, je parle même pas d'achat, tu sais, on est même pas dans un mindset de comme, oh, est-ce que je vais être capable de m'acheter ma prochaine sacoche? Non, là, c'est, est-ce que je vais être capable de mettre, tu sais, je vais être capable de manger genre des fruits le mois c'est prochain, tu sais. C'est le casseau de fraises qui coûte 8$, mais...
Hey, ça va pas d'allure.
Je vais-tu être capable, mais je sais pas, hein, si... Je pense pas que c'est un... Honnêtement, je pense pas que c'est un stress. On s'en reparlera, OK, dans 2 ans, dans 5 ans, mais je pense pas que c'est un stress qui s'en va. Puis tu vois, je travaillais dans une PME, puis tout, puis tu sais, le stress était encore là.
C'est ça.
Fait que... Ouais, fait que même dans les organisations, tu le sens, tu sais, parfois, tu sais, dans des PME ou des TPE, là, tu as accès aux propriétaires, mais même dans des organisations, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils focusent tellement ses objectifs sur la vente parce que tu le sens même en entreprise. Fait que je me dis, comme entrepreneur, c'est sûr que le sentiment part pas, c'est juste qu'on apprend à vivre avec, puis on apprend à réguler nos émotions. Puis, tu sais, à calmer, on parle souvent de système nerveux, mais c'est vrai, là, on calme vraiment notre système nerveux. On apprend à vivre avec l'inconfort versus salarié, tu sais, tu vis avec un confort. Là, c'est vraiment un inconfort que tu vis sans cesse avec, puis tu dois comme l'apprivoiser, tu dois vivre avec comme, tu sais, comme ton partner, là. C'est vraiment, tu l'apprivoises, puis c'est une relation que tu bâtis avec l'imprévisibilité, là.
C'est bien dit, puis tu sais, plus... veux pas ta business grandit, que tu engages des gens, que tu achètes des gros logiciels, whatever, ben, tu sais, oui, tu fais plus, mais tu as plus de dépenses aussi, là. Fait que, tu sais, ça ferait du sens que ce stress-là parte pas, mais c'est sûr qu'on va avoir la discussion quand on va être millionnaire.
Ah ouais. Fait que, back dans 5 ans, on se reparlera. Ouais. Vous viendrez nous écouter dans 5 ans.
Exactement. Puis en terminant, Jess, t'en as parlé un peu au début du podcast, mais quelqu'un qui est tombé en amour avec toi aujourd'hui et qui aimerait travailler avec toi dans les prochaines semaines, prochains mois, ça ressemble à quoi? Comment tu fonctionnes?
Juste à m'écrire. un beau petit DM. Sinon, j'ai vraiment sur mon site web, j'ai toutes mes offres qui sont affichées. Mais j'aime vraiment plus connecter. Fait que tu as un petit DM, ça me permet. Ces temps-ci, je suis vraiment gros. J'ai beaucoup de clientes qui me demandent des offres personnalisées, de consultations. Puis là, j'aime vraiment ça, créer ça. Fait que tu sais, viens juste m'écrire un petit DM sur Instagram, puis qu'on jase, qu'on apprenne aussi à se connaître. Moi, c'est tout le temps un petit plaisir. Fait que ça serait pas mal la façon de faire sur mes réseaux sociaux, là, je te dirais. Sinon, ben et tout le temps, on peut tout le temps booker des appels découvertes, là, mais... Ah oui, chose que toi, tu fais pas, hein? On s'en prend...
Je sais, ça aussi, c'est un autre gros sujet, mais j'en ai fait pendant longtemps, là, fait que, tu sais,
ouais.
On voit que j'ai testé plein de choses, puis, tu sais, je m'adapte vraiment à mon énergie. Je pense que c'est depuis que je suis un peu plus spirituelle, que je me connais mieux, c'est là que j'ai changé vraiment plein d'affaires dans ma business versus avant, je faisais ce que ma coach me disait de faire, mais j'ai vu que ça fonctionnait pas toujours bien. Puis, est-ce que tu as des nouvelles offres qui s'en viennent, des choses gratuites, whatever, que tu aimerais parler?
OK. Fin août, j'ai un challenge qui revient sur apprivoir son alter-type business, OK? C'est malade, je capote ma vie là-dessus. Sérieux, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un challenge qui est le fun. On le fait à petit prix, fait qu'en bas de 50$. Puis c'est en collaboration avec Maud Lamont, qui est copywriter, féministe, magicienne, sérieux. Elle aussi, là, je l'adore. Fait qu'on fait ça en collaboration et j'en parle pas plus de ça. Puis sinon, ben, on a notre programme intensif Incarne ton alter-type business. Woohoo! Fait que challenge, c'est vraiment comme apprivoise. On te parle des alter-types. C'est un concept marketing qui va changer, révolutionner ta façon d'agir comme entrepreneur et de faire dans ton entreprise. Mais dans le programme intensif, c'est comme un mix entre un programme puis un mastermind. Fait qu'on a fait un beau mix là-dedans. Ça s'en vient pour septembre. Fait que c'est pas mal ce qui s'en vient pour le moment. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça. Pour le challenge, j'en parle. On ouvre le quiz parce qu'il y a un quiz à faire pour connaître son alter-type que tu pourras faire. Tu l'as-tu fait, toi, Hello? Je te l'ai dit, oui, finalement.
Non.
Ah, tu vas pouvoir le faire. OK, bon, ben il sort 1er août.
Yeah.
Ouais, il va sortir dès août, fait que dans quand même pas longtemps, on est le 20 juillet, puis quand que les gens vont écouter, on va être
20,
pas mal...
28.
Ah ouais, fait que ça sort le 1er août, puis vous allez pouvoir savoir c'est qui votre alter-type business.
Wouh! Excellent! Merci, girl! C'est tellement intéressant, by the way, j'avais demandé à Jess c'était quoi, parce que je comprenais pas, puis elle m'avait envoyé comme 3 messages vocaux, j'étais comme « Merci, t'as expliqué! » Mais oui, il faut que j'aille faire le quiz, puis le challenge aussi, ça a l'air débile, puis si jamais t'as le lien en avance, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode en spécial. Merci tellement pour ton temps, girl, sérieux, nos discussions. Puis c'est ça que j'aime, tu sais, on se ressemble, on se ressemble pas, on vit des choses similaires, puis tu sais, on vit des expériences différentes aussi, mais comme c'est tout le temps enrichissant de parler avec toi. Puis merci à ceux et celles qui nous ont écoutés. Peut-être que ça vous a trigger, peut-être que des fois vous étiez « OK, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, OK, j'approuve ce qu'elle dit, peu importe ». Tu sais, essayez de rester neutre là-dedans puis vraiment de faire vos propres opinions. Si jamais vous voulez nous jaser en DM à Jess ou à moi, venez nous écrire. Les deux, on est bien open justement pour parler de l'industrie du coaching, la consultation, les investissements, le shiny syndrome object et tout. Donc, soyez vraiment à l'aise de venir nous écrire. On se laisse sur ce et on se retrouve lundi prochain pour un épisode de solo. Bye tout le monde!